n'était pas tout à fait prêt, vous allez me redire tout ça.
Non, non, ça tourne, ça tourne.
Déjà ?
Quelqu'un part, j'enregistre. C'est pas intéressant, je coupe. Intéressant, coupé. Intéressant, coupé. Clic, clac, clic, clac, pouf.
Et alors, ils ont l'air bien pressés tous les deux. Où ils vont si vite ?
À la base, Saint-Jacques.
En pèlerinage ?
So may we start. So may we start. It's time to start. High time to start.
Vous arrivez en retard à tous vos rendez-vous ou seulement ceux qui sont pas importants?
Bonsoir à toutes et à tous. Le mercredi, c'est le jour du cinéma et sur Radio G, c'est le jour de caméra subjective. Bienvenue à l'écoute de l'émission qui parle du 7e art sous toutes ses formes. Dans l'équipe de ce soir, on retrouve Claire. Bonsoir Claire.
Bonsoir.
Margot. Bonsoir Margot.
Bonsoir à toutes et tous. Bonsoir Anne-Lie.
Et Véronique. Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.
Alors dans l'émission que nous avons fabriquée pour vous ce soir, il sera question du cinéma du quotidien, c'est-à-dire de tous les films vus en dehors des salles de cinéma. Avec Véronique, on regardera déjà du côté du festival Premier Plan et de comment vous pouvez y prendre part dès maintenant. Claire a de son côté récolté des souvenirs de spectateurs et spectatrices. Vous pourrez les découvrir dans quelques instants avec une nouvelle chronique. Et c'est Margot qui ouvre cette émission avec une chronique qui nous plonge au cœur d'un film.
Absolument. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la dernière fois que j'ai parlé à ce micro, je vous avais avoué mon intérêt pour les guirlandes de papier. Bon, et accessoirement, j'avais parlé du film « Certains aiment chaud » de Billy Wilder. Eh bien, aujourd'hui, il est temps de vous confier un autre jeu auquel j'adore m'adonner après avoir vu un film, lui trouver un nouveau titre. Je peux même pousser l'exercice en m'amusant à faire référence au titre d'un autre film. Alors, par exemple, quand Quentin Tarantino décide d'appeler son dernier film « Il était une fois à Hollywood », le cinéphile peut apprécier le clin d'œil à Sergio Leone et sa trilogie « Il était une fois
dans l'Amérique.
L'Ouest ». Non, dans l'Ouest, le premier. « Il était une fois
en Amérique ».
Non, c'est le dernier, « La Révolution ». Et le dernier, donc, « Il était une fois
en Amérique ».
Voilà, on les a tous. Eh bien, le film dont j'ai envie de vous parler ce soir, parce que je l'ai découvert assez récemment et qu'il m'a transporté bien loin d'Angers pendant 1h30, s'appelle « La Vallée des Loups ». Mais il aurait aussi bien pu s'appeler « Deux étés, un hiver » dans un mix de titres, je le reconnais, assez improbable, entre « Deux jours, une nuit » des frères Dardenne et « Printemps, été, automne, hiver et printemps » du réalisateur sud-coréen Kim Ki-duk. Deux étés et un hiver, soit 18 mois, c'est long. Et c'est le temps qu'il faudra au réalisateur Jean-Michel Bertrand pour parvenir à filmer des loups à l'état sauvage, dans une vallée tenue secrète du parc naturel des Écrins. Ce passage du temps, la frénésie de notre mode de vie contemporain, tend à le faire disparaître. Et pourtant, il occupe une place centrale dans la vallée des loups. Temps de l'affût pendant lequel, immobile et silencieux, le réalisateur observe la nature depuis son bivouac. Passage des saisons aussi, qui offre des plans fabuleux sur la montagne prise dans la glace, la forêt aux couleurs fauves ou l'éclosion de délicates fleurs sauvages au printemps. En prenant son temps, le film relate la quête incroyable du réalisateur lancé à la poursuite de cet animal qui le fascine et l'obsède. Alors, message à l'attention de toutes celles et ceux qui aimeraient voir un documentaire animalier classique. Passez votre chemin parce que vous risquez d'être déçus. Comme le souligne le réalisateur,
c'est tout sauf un documentaire sur les loups. C'est un film qui raconte une histoire, celle d'une passion, d'une rencontre.
Et puis pour celles et ceux que l'aventure n'effraie pas, chaussez vos boots de rando, préparez votre sac à dos sans oublier un bon sac de couchage. On part à l'assaut de la montagne aux côtés de Jean-Michel Bertrand avec un petit extrait de la bande-annonce du film.
J'ai grandi ici, au cœur des Alpes. Depuis quelque temps, une intuition m'obsède. Et s'il revenait ici, dans cette vallée secrète ? faut que je me trouve un endroit pour dormir. Et je crois que je vais dormir là, voilà. Il faudra pas que je bouge trop cette nuit, mais bon. Je prends conscience que chercher un loup là-dedans, c'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Là. Et là, oh, c'est grave. Non, mais c'est là qu'il faut que je pose une caméra. Putain de merde. Je vais m'arracher les yeux, mais je vais rien lâcher jusqu'à la nuit. Oh, yes, yes. Pourvu que les loups sortent pas, mais je pourrais même pas les filmer. Le matelas indestructible et mon oreiller. Ce qui vient à lancer, là, c'est une espèce de mort aux dents. Une envie colossale de vivre des trucs.
Alors, vous l'aurez entendu, orage, tempête de neige et kilomètres à parcourir pour traverser la vallée en quête de traces du loup, rien n'arrête le réalisateur Jean-Michel Bertrand. Si son visage ou sa silhouette athlétique sont très souvent à l'écran, sa présence est aussi très forte par le son, et notamment grâce aux commentaires qu'il fait de ses aventures. Souvent drôle, toujours instructif, généralement enthousiaste et parfois pris plein de doutes, un tantinet exaspérant mais toujours poignant, les propos du réalisateur nous font partager son enquête au jour le jour.
Filmer un animal, c'est le découvrir par soi-même,
explique-t-il. Et par le truchement de la caméra, le réalisateur devient un véritable personnage qui peut évoquer Tintin avec son carnet de notes dans lequel il consigne toutes ses observations, ou même James Bond quand il passe des journées à l'affût, observant la nature avec ses grosses jumelles sans bouger. Mais il a aussi tout du capitaine Haddock avec son franc-parler qu'on a entendu dans la bande-annonce, ou même de Sherlock Holmes quand il examine des empreintes laissées par un animal dans la boue, ou qu'il installe des caméras dans divers endroits de la forêt pour remonter la piste des loups. Élémentaire.
Il suffit de pousser la porte et la magie est là, partout.
Alors, je vous ai parlé du personnage de Jean-Michel Bertrand et de son rêve de filmer les loups. Mais c'est comme si j'avais laissé de côté la part la plus importante du film, le décor. Pendant 1h30, nous sommes plongés en toute saison et hors du temps, dans une vallée perdue, loin des villages et des hommes, entre pitons rocheux escarpés et forêts de résineux mystérieuses. Jean-Michel Bertrand s'est entouré d'une équipe très restreinte pour réaliser son film. Il y a d'abord Marie Amiguet à l'image, qui va réaliser quelques années après La Panthère des Neiges, auquel on pense forcément en voyant ce film, Boris Jolivet pour le son et Armand Amar comme compositeur de la musique originale. Et je précise leur nom parce que c'est l'expertise de chacun qui contribue magistralement à nous immerger dans ce décor majestueux. Il y a bien sûr les vues aériennes à couper le souffle le long des rochers ou en surplomb de la forêt, et les gros plans sur les visages ou les mains de Jean-Michel Bertrand qui nous permettent de nous sentir à ses côtés. Et puis il y a aussi un fabuleux travail sur le son qui permet de faire surgir de véritables paysages sonores aux côtés de l'image. Comme le réalisateur le précise,
tous les sons qu'on entend dans le film ont été enregistrés au bon endroit, à la bonne saison, à la bonne altitude, dans le bon biotope. Ce n'est pas simplement de l'illustration sonore avec un petit cui-cui par-ci, un petit vent par-là, mais une approche véritablement naturaliste.
Alors, mesdames qui êtes dans le studio, et puis vous autres qui êtes derrière votre poste, peut-être dans la voiture, je vous propose un petit jeu. Nous allons entendre quelques très courts extraits de la bande sonore du film, et à vous d'imaginer où nous sommes et peut-être ce qu'il se passe à l'image. Alors, si vous êtes prêtes et prêts, on lance le premier extrait. Alors, qu'est-ce que vous avez reconnu? Où est-ce que vous êtes sentie?
Je me suis sentie près d'une cascade, au milieu d'une forêt avec des oiseaux.
Ouais.
Ouais, forêt, oiseaux, beaucoup d'oiseaux assez lointains. Après, imaginez ce qu'il y a à l'image, c'est dur.
La canopée, peut-être?
Bah oui, en fait, ce qui est intéressant, et je rebondis un peu sur ce que vous dites, et c'est aussi à ça que sert le son dans le film, c'est qu'on a, à ce moment-là, à l'image, en fait, on voit Jean-Michel Bertrand dans un de ses affûts, et à l'image, on ne voit que lui. Et en fait, ce son nous fait vraiment deviner donc, cette canopée, comme tu le suggères, Claire. En tout cas, c'est vrai que là, le son sert à créer un espace qu'on ne voit pas juste avec l'image. Alors, deuxième extrait.
« Là, il y a de la musique en plus.
Ouais.
C'est le matin ou le soir?
Moi, j'ai pensé à ambiance nocturne.
Ben, on est encore dans l'affût.
On est encore dans l'affût et vous avez tout à fait raison, on est en ambiance nocturne. C'est-à-dire qu'on entend vraiment, du coup, puisque là nous n'avons que le son et pas l'image pour nous influencer, on entend vraiment que les cris des oiseaux sont assez différents. D'ailleurs, ce ne sont probablement pas les mêmes qui sont en train de chanter. Donc oui, ils annoncent la nuit. Alors j'espère que personne ne s'est endormi au volant.
Non. Là, attention, il faut faire très attention. Il y a l'air d'avoir quelqu'un qui marche dans l'eau.
Waouh, pas mal. Alors qu'est-ce qui te fait dire ça?
Des bruits de pas qui résonnent avec des petits craquements végétaux.
Ouais.
Mais c'est aquatique, je ne sais pas quoi dire.
Moi, je vois le ruisseau qui dévale la montagne aussi.
Moi, j'aurais dit comme Véronique.
Ouais. Alors en fait, on entend ce qui est... Quand on revoit l'extrait, on entend même la canne qu'il a plantée dans le ruisseau. On entend, en fait, il marche sur des graviers. Et donc, on a les pas comme la canne qui sont un petit peu en train de glisser sur des graviers. Et alors, dernier extrait.
Moi, je me dis qu'on pourrait être sous l'eau à ce moment-là.
Moi, j'ai vu une grotte. Je me suis sentie dans une grotte.
Ouais.
Moi, un peu comme l'extrait précédent, plus.
Ouais.
On sent qu'il fait quelque chose dans l'eau, j'ai l'impression, ouais. Toujours, mais...
Alors, effectivement, on a à nouveau cette sensation aquatique. J'aime beaucoup l'idée de grotte. Alors, c'est pas une grotte, mais ça aurait pu être ça, parce qu'on a... en fait, on a un moment, on est en plein hiver, la forêt est prise dans la glace, et donc, c'est comme des stalactites avec l'eau qui tombe. Et surtout, ce qui est intéressant, ce qu'il fait, en fait, c'est qu'il marche. Et le son, c'est les pas dans la neige. Et en fait, le son est particulièrement important aussi pour ça, c'est qu'il donne matière à l'image. Et c'est pas du tout le même son quand on l'entend marcher sur la mousse, quand on l'entend marcher dans la neige. Et ça, c'est assez fascinant de s'en rendre compte à l'écoute de ces extraits. Alors, le décor, les personnages, la mission, je crois bien que j'ai tout dit. Vous êtes fin prêt pour la rencontre du film. Mais n'oubliez pas, comme le souligne si bien Jean-Michel Bertrand...
On n'entend pas le loup.
Non.
On l'espère.
On n'attend pas le
loup. Ah, on attend. Bon, on n'attend pas le loup. On l'espère. La Vallée des loups a été réalisée en 2015 par Jean-Michel Bertrand. Il est disponible en DVD et sur plusieurs plateformes de VOD. Et les élèves en primaire dans certaines classes du département auront aussi la chance de le découvrir sur grand écran dans le cadre du dispositif École au cinéma. Merci Margot.
Merci Margot et Annie. Et maintenant, nous allons nous intéresser à la réception des films par le spectateur avec un entretien que j'introduirai par une question. Avez-vous un film doudou? Un film qui vous a particulièrement marqué et qui vous a accompagné bien après sa découverte? Un film vu et revu à maintes reprises? C'est la question que j'ai posée à Fabio. Il nous raconte sa découverte, non pas d'un film, mais de deux films qui ont marqué une période de sa vie. Le premier est de 1965, et je précise la date de sortie à la demande de l'intéressé, et le deuxième est sorti en 1989. Je vous laisse découvrir les films en question.
Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire.
Non, j'écris.
Je m'appelle Fabio Longoni. J'habite en Anjou, à la campagne, à Rochefort-sur-Loire, depuis une dizaine d'années. Avant, j'habitais à Angers. Et avant, j'ai habité dans plusieurs villes. C'est vers mes 18-19 ans. J'habitais encore en banlieue parisienne. Et c'est là où je me suis mis à l'arrêt essai français. C'est vers cet âge-là, quoi. Avant, je passais mon temps à jouer aux jeux de rôle. Donjons et Dragons, j'étais un vrai geek. Après, je me souviens un peu sur mon extérieur, sur les filles, les copains, les sorties, tout ça. Et après, j'ai un petit premier virage, qui continue aujourd'hui, à m'intéresser à la culture, avec un grand C, la française, à l'ARASS, tout ça, quoi. Donc, j'allais voir des galeries aussi, je me suis intéressé au surréalisme, tout ça. Et je me suis intéressé au cinéma d'art et d'essai. J'ai fait mes classes en autodidacte. Donc je lisais Télérama. et puis j'allais dans... je me fasse des classiques de la RSF français. Et donc je me suis attaché à Godard, dans le Panthéon français. Et donc je me forçais un peu des fois, et puis j'avais du plaisir aussi. Et avec un pote, donc c'était l'époque des cassettes vidéo, il passait Pierrot le Fou. Et À bout de souffle. À bout de souffle, on est allé le voir au Cinoge, je crois. Ça, c'était bien à Paris, quoi. Il passait tous les films tout le temps. Cinéma Galante dans le 5e, cinéma machin, séance de 11h30, il y avait Cocteau aussi, tout ça. Donc je me suis fait mes classes un peu. Et j'ai vu À bout de souffle, j'ai bien aimé. Et après, j'ai vu Pierrot le Fou. On l'a vu ensemble, on était avec un pote, Nicolas Meyer, tiens, je me souviens. On était chez lui, chez ses parents, on dormait les uns chez les autres, là c'était cool. On s'installe, il met ça, tchac tchac, on fume un petit joint, et on regarde Pierrot le Fou. Et là, tous les deux, on a adoré, quoi. Grosse claque, hein. Pierrot le Fou, wow, les couleurs, l'usage des couleurs, j'y connaissais pas grand chose, hein, mais j'ai vu là tout de suite, j'ai vu, ah, il y a le bleu, il y a le rouge, ok. L'usage du son aussi, de la bande-son, j'ai halluciné. C'est un film de 68, 67, je crois, je sais plus. Pierrot le Fou à peu près. Et là, on était, je l'ai regardé en 93, 94. Je trouvais ça hyper novateur, quoi. La bande son, il intercale dans son montage son du dialogue, des citations, des pubs. Le jeu avec l'image, quoi, de la narration. Il y a une histoire, mais quand même, elle est intercalée avec plein de choses. Envie et vie, là, quand il passe dans la ville, envie, vie, tout con. La comédie musicale, elle est restée gravée avec Anna Karina. Et puis, j'étais amoureux d'Anna Karina. C'était waouh, Anna Karina, c'était voilà le. Pour moi, à l'époque, c'était un des. Bah, physique idéale pour moi dans un film, quoi. La brune comme ça aux yeux bleus. En plus, je suis d'origine allemande aussi, alors elle n'est pas allemande, je ne sais plus, elle est danoise ou suédoise, mais il y avait ce côté nordique, germanique, mélangé avec le sud, là. Ils étaient en, ça se passe en deuxième partie du film, dans le sud, là, sur la côte d'Azur, où elle chante, ligne de chance. Et avant, qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais pas quoi faire. Et ses répliques, après, il est passé à Radio Nova aussi. Parce que j'écoutais Radio Nova, je me faisais même une bonne culture musicale aussi. Voilà. Donc j'étais fasciné par cette explosion de trucs là-dedans. Le côté politique sur la guerre d'Algérie, mélangé avec les idées maoïstes, marxistes-léninistes, mélangé avec du son, de l'image, avec l'histoire de l'art, l'histoire du cinéma, les chansons, l'humour dedans, Raymond Devos qui apparaît à un moment. Donc toute cette culture que moi, à l'époque, j'en écoute encore du hip-hop, du rap, qui on était déjà, et puis Tarantino qui allait arriver avec cette génération du sample et de l'échantillonnage, eux, ils avaient déjà fait ça avant, quoi, les surréalistes, les dadaïstes, après William Burroughs, et puis là, dans le cinéma, Godard, wow, c'était impressionnant, je me suis pris une grosse claque. Si bien que ce film-là, que j'avais en cassette vidéo, tout le lien avec la technologie, je l'ai revu, mais genre, quand je savais pas quoi faire, le soir, voilà, j'avais plus de temps à l'époque, je me regardais Pierrot le Fou. Donc j'ai dû le voir 20 fois, quoi. 20-30 fois, quoi. Et du coup, je regardais à chaque fois différemment. Donc c'est une des premières fois que je regardais autant de fois un film, quoi. Parce qu'il est tellement riche, on peut le voir plein de fois. Et même, un pote m'avait conseillé ça, que faisait les Beaux-Arts. J'avais enregistré après, hein, encore des années plus tard, la bande-son depuis la cassette magnéto sur cassette audio. Et j'écoutais dans la cuisine, des fois pour le plaisir, juste la bande-son. Parce que la bande-son en elle-même, elle fonctionne. Elle est mortelle, en fait. Avec la bande-son, elle est impressionnante, quoi. Elle est riche. Ouais, ça peut être écouté, quoi, en CD, en MP3. Enfin bref, ça peut être écouté en tant que tel. Et l'autre film, alors celui-là était plus récent, c'est Palombella Rossa, de Nanni Moretti. Donc c'était l'époque où Nanni Moretti, il est encore aujourd'hui, là, il fait encore des films qui sont encore appréciés en France. Mais c'était un petit âge d'or pour lui, là. Il commençait à être plus connu, quoi. Il avait déjà fait 5 ou 6 films avant qui étaient moins connus, mais après qui ressortaient, Ecce Bombo, tout ça. Et donc là, la France était à fond sur Nanni Moretti. Et j'ai découvert après qu'en Italie, il était moins aimé qu'en France par certains. Parce qu'en France, il est vraiment connu en tant que cinéaste, mais en Italie, il est vraiment connu en tant que militant de gauche. Et donc il y a plein de gens qui saoulaient, quoi. Il était. Voilà. D'ailleurs, il s'est même impliqué politiquement. Il avait lâché un moment le cinéma, puis il s'était mis dans les partis politiques, mais ça n'avait pas marché, je crois. Et donc, moi, je l'appréciais déjà en tant que réalisateur, quoi. Et donc, j'allais voir les rétrospectives qui passaient à Paris, toujours dans le 5e arrondissement, là, où il y avait tous ces films des années 80. Et là, il y a Paulo Bellarossa qui est passé à la télé, et je l'ai enregistré. Et pareil, c'était avec Pierrot le Fou, les deux films que je regardais en boucle, que j'avais en cassette vidéo. Tout le film se passe autour d'un match de water-polo. Et c'est un faux huis clos. Il est magnifique, ce film. Ça traite des souvenirs, de l'enfance, de la perte de mémoire, du déclin de la gauche en Italie. Ça traite de tout. Voilà. Et il y a du cinéma dans le cinéma dedans. Il y a la fille de Dario Argento qui joue dedans, Asia Argento, quand elle est gamine. Alors, à côté, les conditions de tournage étaient horribles. Hein. Il doit être un peu con, Nanni Moretti, sur un tournage. Et il y a le film, à un moment, il y a la scène de water polo. Il y a le match de water polo qui s'arrête et tout le monde s'arrête parce que le. Dans cette piscine, imaginez, hein, mais je ne sais pas si c'est comme ça pour les matchs de water polo, où il y a deux équipes qui s'affrontent de deux villages différents, il y a une petite télé. Et là, il repasse Docteur Jivago, et le barman dit « Ah, je ne peux pas regarder cette scène, elle me fait pleurer à chaque fois », il s'en va, et tous ensemble, ils arrêtent le match, et tu as genre 200 personnes qui regardent sur un petit écran Jivago. Ça, c'est juste une des scènes, hein, du film, hein. Et il est super, ce film. Il n'est pas si connu de Moretti, mais il est génial. Paulo Bellarossa, en plus, ça me faisait un lien avec l'Italie. Il y avait un côté affectif, culturel, quoi. Et les dialogues sont super. Mais des trucs très précurseurs. Il engueule une journaliste qui utilise plein de mots en anglais. Mais il dit, les mots sont importants, vous pouvez pas utiliser ces mots-là. Il y a des mots, les mots sont importants. Et puis il ralentit sur l'image. Et t'as l'impression que c'est pas que le personnage de Michael, qui est son alter ego, qui s'énerve, c'est Nanni Moretti aussi qui s'énerve. Voilà, il a ce rapport autobiographique. Le match de water polo, alors que j'en ai rien à foutre de water polo, moi, il est fascinant. Parce qu'il y a toute cette métaphore, je pense, hein, de l'eau et de la piscine, qui replonge dans l'enfance. Lui, il a, je ne sais pas, 40 ans à cette époque-là. Il a perdu la mémoire, il a fait un discours à la télé devant tout le monde. Il a eu une envolée un peu chrétienne, mystique, en parlant du parti de gauche italien. Et ça a convaincu des gens, quoi, parti communiste. Et c'est fascinant, quoi. Donc il essaie de se rappeler, il y a toute son enfance qui défile, son père qui l'oblige à se baigner. Et son père, c'est une sorte de gros monstre poilu qui m'a rappelé un peu mon père aussi, qui était un peu comme ça, côté un peu bourrin, quoi, où il le jetait dans la piscine, voilà. Sa mère qui lui dit « vai tout fatti », la mère qui est en train de parler avec les mamans, « vas-y, plonge-toi, Michael », elle en a un peu marre. Puis à un moment, son père l'attrape et le jette dans l'eau, et il pleure, donc il y a un traumatisme là-dessus. Et je vois bien, nous, en tant que parents, on essaie de faire mieux que la génération d'avant, bon, on y arrive plus ou moins... suivant les moments. Enfin, mieux que nos pères, déjà. C'est plus facile, déjà, parce que c'est quand même une génération des parents qui s'occupaient moins de nous, quand même. Les pères, hein. Moi, je suis en 74. Donc, ouais, les pères, ils s'occupaient moins des enfants. Sauf si la mère était morte et qu'elle n'était pas mariée, voilà, quand ils étaient obligés. Mais sinon, voilà, en général, ils s'occupaient moins, quand même. Et, ouais, plus bourrin, quand même. Et donc, ça m'a rappelé ça, voilà, cette manière. Ouais, on y va, puis voilà.
Je te porte moi-même.
Non, maman, j'ai changé d'avis. Je veux faire un autre sport. Vous comprenez ?
Je t'emmène
pas le water polo, j'aime pas ce truc-là.
Viens ici.
Non !
Et dans ce film, ils jouent sur les répétitions. Genre, ils vont répéter 15 fois les mêmes phrases. Genre, t'as le coach qui engueule... Il a Marca Butavari, Marca Butavari, Marca Butavari, Marca Butavari. Tu vois l'écran du coach qui continue. Marca Butavari, Marca Butavari. C'est un petit personnage qui est drôle, qui est un des comédiens fétiches de Moretti, qui engueule... Enfin non, qui motive Butavari à aller marquer et lancer le ballon dans les cages. Effectivement, il a un côté casse-tête, ce film. Et moi, je peux être comme ça, des fois. Hein. Du côté italien, ils étaient comme ça. Hein. Parce que moi, je suis moitié italien, moitié allemand. Il y a vraiment des manières de communiquer bien différentes. Des typiques, des intypiques, et puis des français, des allemands. En Italie, ça gueule, on parle en même temps, on n'attend pas la fin de phrase. En Allemagne, c'est l'inverse. On attend la fin de phrase avant de parler. Le verbe est à la fin. Voilà. C'est plus respectueux de l'écoute. Mais des fois, c'est plus chiant et plus lent aussi. Donc, et Paulo Bellarossa, les films de Moretti, il y a des côtés très italiens dedans. Et puis, il en joue, quoi, en même temps.
Calme, 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 tranquille.
C'est la quarta al centro. Ho paura.
Non c'è la quarta. Non c'è la quarta. Non c'è la quarta. Dagli sta mano.
La picella. Ah, bah, je vous connais. Vous avez les deux maillots? Je vous ai déjà vu à la télévision plusieurs fois.
Je suis au Parti communiste.
C'est un parti à reconstruire. Tout est en miettes. Vous pataugez entre deux eaux. Masucci.
Andrea.
Dites, je pourrais regarder ma photo.
Un arbitre professionnel comme moi pourrait refuser, mais d'accord. Vous êtes sans identité. En vous, il y a au moins trois âmes.
écoutez Radio G et Caméra Subjective, le magazine consacré au cinéma. Après un détour dans la bande originale de ce deuxième film choisi par Fabio, on va retrouver Véronique qui nous explique comment prendre part.
Attends,
au
moi
festival.
J'ai pas entendu le titre.
Ah oui, parce qu'en fait, je ne l'ai pas dit. Le titre, voilà. Tu veux nous le dire, Margot?
J'aurais dû m'en douter. La Mametsi Ashugavano I Capelli.
Bravo.
Nicola Piovani.
Alors là, bravo.
Merci Margot.
Vraiment.
On aurait dû faire répéter Fabio qui avait l'air d'avoir l'accent.
C'est vrai. C'est vrai. Allez, on part vers premier plan maintenant.
Oui, en route pour premier plan, on reste dans l'ambiance européenne après ce petit passage par l'Italie. Et là, je voulais vous parler de premier plan, mais qu'est-ce qui se passe pendant l'automne de premier plan? Eh bien, le festival se prépare à ouvrir ses portes en hiver, du 21 au 29 janvier. Vous avez vu, je fais un petit raccord avec les saisons, parce que c'était le point de départ de Margot.
Très juste.
Bon, l'automne de premier plan, c'est l'occasion de proposer à ceux qui aiment ce festival ou qui ont envie de le découvrir ou de s'y impliquer autrement qu'avec un regard de spectateur, de leur proposer quelques actions. Donc, je vais vous parler de deux choses en particulier. La première, c'est ce que beaucoup de festivals proposent, c'est un appel à bénévolat. Et oui, comme tout grand festival, nous avons besoin de beaucoup de personnes pour faire vivre cet événement pendant 8 jours. Et nous allons composer 12 équipes de bénévoles, réunir 250 bénévoles qui vont pouvoir, selon leurs envies, leurs goûts, s'impliquer dans la médiation auprès du jeune public, accueillir le public dans les salles, les professionnels au desk accueil pro, accueillir les invités qui auront des petits cocktails par-ci par-là, accueillir des partenaires. Nous aurons aussi des personnes qui viendront donner un coup de main pour faire vivre le festival sur les réseaux sociaux, recenser tous les articles de presse. Et puis, il y aura aussi la célèbre équipe régie qui aide à installer les salles du festival. Donc, si vous avez envie de vivre le festival dans les coulisses, de partager votre désir de cinéma, de discuter de tout cela avec une équipe, d'être utile, eh bien, je vous invite à vous inscrire dès maintenant. Notre appel à bénévolat est ouvert et vous choisissez l'équipe qui vous intéresserait et puis le référent reviendra vers vous pour vous rencontrer. Deuxième proposition. Vous aimez faire des films ou alors vous n'osez pas en faire parce que ça vous paraît un peu compliqué? On vous ouvre les portes d'un premier pas de cinéma avec un concours qui s'appelle Angéloire Minute Film. C'est un concours où on propose à toutes les personnes qui habitent Angers-Loire Métropole, notre partenaire également, de réaliser un film de 3 minutes maximum sur le thème double jeu, double jeu. Je fais un parallèle, ce thème c'est aussi le thème du festival 2023, puisque nous retrouverons toute une kyrielle de films autour de cette thématique. Bon, je vous fais un petit peu rêver. On commence pour les plus jeunes, Calamity Jane, Certains l'aiment chaud, The Mask, Le Dictateur, Woman at War, Plein Soleil, Monsieur Klein, Vertigo, Donnie Darko. Si vous avez envie de rivaliser avec les grands réalisateurs sur cette thématique, vous pouvez donc réaliser votre film jusqu'au 14 décembre. Nous sélectionnerons une douzaine de films qui seront ensuite soumis au vote des spectateurs. Ces 12 films seront diffusés lors d'une séance spéciale pendant le festival, au cours de laquelle seront révélés les grands gagnants. À gagner, des places pour le festival, des places pour le cinéma des 400 coups et des places pour la prochaine année de premier plan. Voilà, à très bientôt.
Merci Véronique. Et maintenant nous écoutons Anne-Li.
Alors oui, ma chronique débute par une question. Où donc voit-on les films?
Quiz. Au cinéma.
Au cinéma, d'autres non?
Dans sa voiture, quand c'est une projection en plein air aux États-Unis.
C'est vrai. Alors on voit les films au cinéma évidemment, mais aussi sur d'autres écrans de toutes les tailles et désormais dans toutes les poches. Mais au XXe siècle, c'est beaucoup à la télévision qu'on voit les films. La semaine dernière, j'étais dans la maison de mes grands-parents et bien sûr, il y a la télé. Objet que je n'ai pas à portée de regard d'habitude. Alors parmi les concours culinaires, les enquêtes exclusives, les rencontres amoureuses avec son chien ou les téléfilms, il y a des films de ceux qui ont d'abord été projetés au cinéma. Alors je vous préviens, ce n'est pas une chronique sur la chronologie des médias, même si on connaît tous tacitement l'ordre de diffusion. Un film sort d'abord en salle, puis en DVD Blu-ray, puis à la télé. En tout cas, c'était l'ordre des choses au XXe siècle. Alors aujourd'hui, l'écran de papy et mamie est large et plat. Ce n'est même plus spécifique, ils le sont tous. Mais j'aimerais qu'ensemble, on fasse un voyage temporel. Il y a 10, 20 ou même 30 ans. Peut-être que la TNT n'existe pas encore. Peut-être y a-t-il moins de 10 chaînes à regarder. L'écran est volumineux pour accueillir la technologie cathodique qui produit l'image. Il prend de la place sans être forcément large. Et l'image qu'on regarde est petite, petite. On parlait bien sûr de petit écran. Alors cette visite dans une maison restée au XXe siècle m'a inspirée car j'ai pensé à tous ces premiers films vus et qui l'ont été grâce à la télévision. De là se dessine une certaine histoire, une mythologie peut-être, du cinéma, autant familiale que collective. Si je regarde dans les placards de mes grands-parents, je vais trouver les cassettes de La Grande Vadrouille, La Septième Compagnie, La Vache et le Prisonnier, tout film avec Fernandel ou Bourville ou les deux. Ce qui nous situe déjà dans la production audiovisuelle française, celle de l'après-guerre. Un corpus qui était accompagné des enregistrements d'émissions type Nature et Voyage, Thalassa, Faut pas rêver, etc., etc. Le magnétocassette, c'est le début de la vidéo à la demande. Alors à partir de cette culture ciné initiale, j'ai pensé à mes premiers souvenirs de films à moi. Des souvenirs qu'on partage peut-être. Il est possible que la première expérience de cinéma soit sonore. On entend le film plus qu'on ne le voit, pendant qu'on joue dans la même pièce, sous la table. On a de temps en temps l'autorisation de veiller un peu plus tard que d'habitude, pour le voir jusqu'au bout, parce qu'il n'y a pas école le lendemain. Et de temps en temps, une scène arrêtée en plein vol, qui aurait pu s'avérer trop sensuelle ou charnelle. Puis il y a les films vus par fragments, par-dessus l'épaule d'un grand frère, leurs répliques connues par cœur, des films qui deviennent progressivement vus et revus. Mes souvenirs de cinéma, ce sont aussi les laserdiscs, si vous vous rappelez de cette technologie, empruntés. Des films que l'on visionne en boucle, pour ma part L'étrange Noël de Monsieur Jack, ou ceux choisis par les plus grands, où on comprend rien, Akira par exemple, ou les cassettes, qui à force de relecture donnent une image illisible. La série des Astérix nous apprenait ainsi sans doute quelque chose sur la disparition. Une leçon digne d'un mythe grec. Grandir dans les années 90-2000, c'était voir beaucoup de films nord-américains avec une grande menace à laquelle répondait un sauveur héroïque et solitaire. L'intelligence collective n'avait pas sa place dans le scénario. C'est grandir avec Stallone, De Niro, Eddie Murphy, Schwarzenegger, Bruce Willis, évidemment. Visiblement, on n'avait pas non plus la place pour les films d'auteur.
Ni pour les femmes.
Ni pour les femmes, bien sûr. J'ai aussi un autre souvenir de cinéma, vu dans un contexte bien particulier, c'est celui du quart de voyage scolaire. Est-ce que vous vous rappelez de ces deux petits écrans suspendus au-dessus de nos têtes et cet improbable moment où vos professeurs choisissent une cassette vidéo pour faire passer le temps ? Déjà la promesse d'une récompense ? Alors si vous avez de la chance, le film, l'écran est proche de vous et vous pouvez entendre la bande-son. Autrement, l'image est littéralement loin, très loin de vous. Et le film se mélange à votre paysage, au sommeil, aux conversations, voire à la tête de vos camarades qui dépassent. Quelle drôle d'expérience de cinéma quand on y pense. Et pourtant, on peut réussir à plonger dans ces films mal diffusés. C'est comme ça que j'ai vu Seul au monde. Ce que je retiens aussi, ce sont les croisements, les mélanges qui s'opèrent, car voir un film à la télé, c'est le visionner découpé par la publicité. Et bien sûr, on zappe, on est curieux, on va voir sur d'autres chaînes, les scènes se mélangent. Retour en 2022. La semaine dernière, il y avait simultanément Rambo, année 80, et Iron Man, année 2000. La télé se regardant à plusieurs, et comme on était curieux, et ou pas décidé, on a d'abord jonglé d'un programme à l'autre. Et si ces films n'ont rien à voir dans leurs époques, leurs récits, leur cadre narratif, les deux ont en commun un Américain musclé, super doué, qui va dans un pays lointain et dangereux. Enfin, je vous dis ça, en fait, j'ai vu ni l'un ni l'autre en entier. Maintenant, on peut regarder les films à la demande, on peut les découper comme on veut, passant d'un écran à un autre, de pause à lecture, en les regardant en accéléré. Je vous jure que les personnes font ça. Et tout ça pour vous dire quoi ? Que la prochaine fois que vous allez chez papy et mamie, ou vos parents, ou que vous prenez le car pour un voyage scolaire, essayez de vous rappeler de la présence du cinéma dans votre quotidien. Pensez à tous ces films vus ensemble, dans des conditions bizarres, décalées, inappropriées, en dehors du cadre idéal de la salle de cinéma. Et aussi vous dire que dans Rambo 2, on retrouve Sylvester Stallone, ses muscles huilés, sa coupe mulet Et avant qu'il ne passe tout le film torse nu dans la jungle avec sa sulfateuse, on voit ses tétons déformer le tissu de son pull rouge. Lui ne fait rien, il a l'unique expression de Rambo. Et en vérité, c'est ça qui m'a marqué.
A rejoint les forces armées le 6 juin 69, enrôlé dans les bérets verts. Pilote et interprète qualifié. Expert en armes légères et dans la guerre d'embuscade. Sylvester Stallone est de retour dans le rôle de Rambo.
Rambo est le meilleur ancien combattant que j'ai jamais connu.
Sa mission, localiser les prisonniers de guerre américains au Vietnam.
Vous croyez qu'il trouvera quelqu'un ?
Des prisonniers américains ? J'en doute.
Allez, montez ! Plus vite, plus vite !
Il n'a plus que 36 heures pour remplir sa mission et rejoindre son hélicoptère.
Bon, on descend ! Vous n'allez nulle part !
Je vous dis d'annuler la mission !
Reviens !
Trahi par les siens et abandonné derrière les lignes ennemies.
C'est vous qui avez commis une erreur.
Et vous pouvez me dire laquelle ?
Rambo.
Et maintenant, il veut s'en sortir. Par n'importe quel moyen. Rambo. Ce que les autres appellent l'enfer. Il appelle ça chez lui.
Et finalement, je regrette de ne pas avoir regardé l'intégrale de Rambo, gratos, dans un vieux fauteuil mou.
Merci Ali pour cette chronique qui fait de nous toutes des boumeuses. C'est la fin de Caméra Subjective. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Vous pouvez retrouver l'émission en intégralité ainsi que toutes les références citées sur le site de Radio G, www.radiog.fr. Vous pouvez aussi nous faire part de vos retours à cette même adresse. À la semaine prochaine et d'ici là, on vous souhaite une belle soirée et
à plus.
Voir plein de bons films.
Dans deux semaines.
www.radio-g.fr